Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Et le journal de 7 heures, c'est le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Des routes transformées en patinoires. Attention, si vous prenez le volant ce matin, 75 départements sont en vigilance. Neige et verglas, branle-bas de combat. Plusieurs milliers d'agents seront mobilisés tout le week-end. Pas de place à la polémique. Notre nation doit être lucide et unie. La réponse de la ministre aux armées, Catherine Vautrin, défend le chef d'état-major aux armées après ses propos. Et un professeur d'école de maternelle menacé à Rennes par un parent d'élève, il refuse que sa fille est un homme comme enseignant.
C'est poétique, mais c'est galère. Du blanc sur nos routes ce matin.
Oui, des flocons sur plusieurs régions. L'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes également. Plus de 70 départements, je vous le disais, sont en vigilance jaune. Neige et verglas, c'est le cas de la Normandie où la neige est tombée hier. Conséquence ce matin, ça glisse. Et le week-end s'annonce particulièrement compliqué sur les routes. Alerte du ministre des Transports hier, Philippe Tavaro, invite les automobilistes à la prudence et annonce la mobilisation de 7700 agents déjà sur le pont Vincent Chevalier.
Parmi les départements concernés, la Loire, les prévisions annoncent des températures glaciales et quelques flocons du côté de Roanne, par exemple.
Dès lors qu'on a une alerte, on est beaucoup plus vigilant.
Frédéric Fournier est le chef du service du pôle voie publique.
On a une équipe de 4 agents qui sont d'astreinte toutes les nuits pour pouvoir armer 2 engins. Aujourd'hui, on a en stock 180 tonnes de sel.
Surveillance accrue aussi sur l'A89, particulièrement dans le Massif central où des opérations de prévention ont déjà eu lieu, selon Morgane Sauzet, chef des services exploitation et sécurité chez Vinci Autoroute.
Ce qu'on appelle du déneigement curatif, des équipages de chasse-neige qui ont raclé la route pour justement enlever la neige qui était sur la chaussée.
Avec ses 60 millions d'euros de budget pour la viabilité hivernale des routes, la Haute-Savoie est l'un des départements les mieux équipés, mais les automobilistes ont aussi leur rôle à jouer, rappelle Martial Sadier, le président du conseil départemental.
Il ne faut pas tout attendre des chasse-neige, mais que si on en montagne, il faut mettre des pneus neige. C'est quand même le premier vrai moyen de ne pas se retrouver dans le fossé.
Cette vigilance se prolongera au moins jusqu'à demain. Ce samedi devrait être la journée la plus froide de la semaine.
Face au narco-banditisme, la société marseillaise doit se réveiller. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice appellent ce matin un sursaut dans les colonnes de la Provence au lendemain de leur visite à Marseille à la veille d'une marche blanche en hommage à Mehdi Kessassi assassiné la semaine dernière. Ils reconnaissent une bataille très très dure face au narcotrafic.
Et la réponse pourrait aussi venir de Bruxelles.
Le ministre des Affaires étrangères y a plaidé hier la mise en place d'un régime transversal de sanctions contre le crime organisé. L'idée, ce serait de taper au portefeuille des trafiquants, cibler les criminels actifs hors de l'Union européenne, geler leurs biens, les empêcher de revenir et les bloquer de transactions financière, si de telles sanctions venaient à être adoptées, Guillaume Bié, leur efficacité fait débat.
Oui, une telle mesure, même au niveau européen, ne serait pas assez pénalisante, explique Bertrand Monnet, spécialiste de l'économie du crime.
Je pense que c'est de nature à en gêner certains, mais après, beaucoup de gros narcotrafiquants et de grands blanchisseurs ne vivent pas dans l'Union européenne, et donc pour ces gens-là, ça n'aura aucun impact.
À l'inverse, saisir directement les biens des trafiquants à l'étranger, comme le ministre de la Justice vient de l'obtenir pour une 30aine d'appartements à Dubaï, ce serait beaucoup plus efficace pour lutter contre le blanchiment, souligne Bertrand Monnet.
Faire pression sur des paradis bancaires et avant tout sur Dubaï pour qu'ils saisissent notamment des actifs immobiliers. Ça, c'est très neuf et ça gêne beaucoup les narcos. Alors après, seul le gouvernement français n'arrivera pas à grand-chose, malheureusement. Mais une action concertée vraiment internationale sur ce sujet-là, à mon avis, oui, elle serait de nature à être très efficace et vraiment à gêner les blanchisseurs.
Un axe majeur de lutte contre le narcotrafic qui représente 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires rien qu'en France.
Guillaume Bié, chef du service police justice RMC. Après la polémique, les clarifications, la ministre des armées vole au secours du chef d'état-major des armées 2 jours après ses propos. Il estimait que les Français devaient accepter de perdre des enfants en cas de guerre. Des mots sortis de leur contexte, dit Catherine Vautrin.
Nous devons anticiper, entraîner nos armées, nous réarmer, mais aussi il est important que notre nation soit à la fois lucide et unie. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de place pour la polémique, surtout dès lors que cette polémique est issue de petites phrases sorties de leur contexte. Elles n'ont finalement qu'une finalité, nuire aux intérêts de notre pays.
Une manière de préparer les esprits à l'image du plan d'Emmanuel Macron qui pourrait annoncer dans les jours à venir un service militaire rénové sur base du volontariat.
Alors sur la base du volontariat, d'ailleurs, est-ce qu'il fallait le penser obligatoire, ce service militaire, à l'ancienne, si j'ose dire? On sera avec l'ancien directeur de l'école de guerre, le général Vincent Desportes, dans quelques toutes petites minutes, mais avec vous surtout au 32-16. Il est 7h05 sur RMC.
Pas de classe ce matin dans 4 écoles de Rennes en grève. Le corps enseignant défend un directeur d'établissement, professeur de grande section de maternelle menacé sur son lieu de travail par des parents. Ils refusaient qu'un homme enseigne à leur fille. Des menaces accompagnées de propos révélant de l'outrage sexiste, de la diffamation et du mépris. Martin Lange avec Solène Leroux pour RMC.
Le 10 octobre dernier, cet enseignant de grande section reçoit une famille qui lui demande de changer leur fille de classe. Inconcevable pour eux qu'elle soit encadrée par un homme. Michael Bezard, secrétaire départemental du syndicat des professeurs des écoles.
Il a refusé puisque c'est pas une raison valable.
Des raisons personnelles, sans motif religieux, assurait hier le ministre de l'Éducation. Le refus de changement de classe n'est en tout cas pas passé du côté de la famille.
Il était gravement menacé par des menaces de mort indirectes. Le collègue est profondément atteint, meurtri de cette situation. Il est arrêté depuis plus d'un mois.
Ses collègues réclament un changement d'établissement de l'élève. Fabrice Le Récif, secrétaire départemental de Force Ouvrière.
Je choisirais le genre, je choisirais la couleur des enseignants, leur origine. Tout ça est contraire à la laïcité. L'école publique, c'est pas une plateforme. On n'achète pas ce qu'on veut dans l'école publique. Il faut des actes forts de l'administration qui montre qu'elle protège ses agents et qu'elle ne lâchera rien. Au-delà des agents même, c'est la République qu'on défend.
Une plainte a été déposée. La famille, avec qui le rectorat a déjà échangé pour un rappel du cadre légal, a de nouveau été reçue hier soir.
Autre agression dans le Nord, celle d'un médecin. Conséquence, 3 antennes SOS Médecins à Tourcoing, Roubaix et Lille resteront portes closes jusqu'à demain 8h. Le directeur de l'antenne locale part d'une expédition punitive. Il dénonce des actes de plus en plus nombreux dans le département. Et puis cet incendie à Bellem, en marge de la COP30, obligeant l'interruption des débats pendant plus de 7 heures. Ils vont reprendre ce matin les débats, ce vendredi, dernière journée, pour tenter de s'accorder sur le financement et une feuille de route sur la sortie des énergies fossiles.
Après 2 semaines de trêve internationale, c'est le retour de la Ligue 1 ce soir.
Et ça débute par la réception de Nice qui reçoit Marseille avec un Benjamin Pavard, titulaire, recrue phare de l'été. Les débuts réussis du champion du monde sur la Canebière ont laissé place au doute, Florent Germain.
Oui, malchanceux et maladroit. Un mauvais placement et un ballon dévié qui font perdre l'OM à Lisbonne. Un but contre son camp et un pénalty concédé à Lens. Benjamin Pavard a souffert avec l'OM en octobre, mais les supporters marseillais gardent tous confiance en lui. Enfin, presque tous.
Ah, il est agaçant, hein, Ligue des Champions, il nous a tué le match. Oui, il défend bien, il a fait une grande carrière. Maintenant, on verra ce qu'il va faire à l'OM.
Titulaire à l'Inter, titulaire au Bayern, c'est pas l'OM qui le fera peur.
Pavard, ça reste quand même une bonne recrue. Recrue internationale, on a besoin de ça. L'année dernière, on a eu Rabiot, c'était un on n'a pas vu.
Dans le vestiaire, ses coéquipiers le soutiennent, notamment le milieu de terrain, Geoffrey Kondogbia.
Je vois le même Ben que quand il est arrivé. Je le vois serein, on est content de lui. Il n'y a pas vraiment de sujet Benjamin Pavard.
L'entraîneur italien Roberto De Zerbi compte sur l'expérience du champion du monde 2018. Pavard doit garder le moral.
C'est un garçon sensible. Il a été affecté par ses 2 ou 3 actions malheureuses. On est tous avec lui. Il doit faire du Pavard et basta.
En l'absence en défense du taulier Naïef Aguerd, Benjamin Pavard aura ce soir l'occasion de se racheter à Nice.
Et le début de la 13e journée de Ligue 1, c'est ce soir 20h45 sur AMC. L'autre événement du week-end sur notre antenne, c'est le tout dernier match de la tournée d'automne du 15 de France. Ce sera face à l'Australie demain soir au Stade de France.
Merci beaucoup Thibaut Texer.